Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Le mois d'octobre était autrefois le mois des saints anges. La liturgie réunissait en une seule fête Saint-Michel et les anges. La fête des anges gardiens, que nous devrions fêter aujourd'hui, si ce n'était pas un dimanche, fut détachée de celle de Saint-Michel et fixée par le pape Clément X au 2 octobre. Les anges, avec leurs représentations sensibles, font sourire les incrédules et même les chrétiens d'aujourd'hui, qui taxent les anges de superstitions moyenâgeuses. Qu'en est-il ? Les anges existent-ils ? Il suffit d'ouvrir un livre qui fait autorité pour s'en convaincre, la Bible. Tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau, elle nous fournit de nombreux témoignages de l'existence des anges. Dans le livre de Tobie, l'archange Raphaël se présente lui-même à Tobie, une fois que sa mission est achevée, et il dit « Je suis Raphaël, un des sept anges qui se tiennent constamment devant le Seigneur. » Et dans le livre de Daniel, le prophète annonce que Saint-Michel viendra au temps de l'Antéchrist pour défendre ceux qui sont inscrits au livre de vie. Notre Seigneur lui-même nous dit dans l'évangile de la messe des saints anges gardiens « Gardez-vous de mépriser l'un de ces petits, car je vous le dis, leurs anges dans les cieux voient sans cesse la face de mon Père qui est dans les cieux. » Notre Seigneur qui est Dieu, qui est la vérité et ne peut nous tromper, parle en beaucoup d'autres endroits encore des anges. Lorsque saint Pierre, par exemple, au jardin des Oliviers, tire son épée pour défendre Jésus que les soldats viennent arrêter. Il lui dit « Remets ton épée en place. Penses-tu que je ne puisse invoquer mon Père qui m'enverrait aussitôt plus de 12 légions d'anges ?» Or, nous savons qu'une légion romaine comptait 6000 soldats. On voit tout de suite que le nombre des anges est grand et que les anges sont toujours prêts à agir en quelque lieu de l'univers que ce soit. Dans la vie de l'Église, l'intervention des anges est constante. Certaines interventions ont donné lieu à des pèlerinages importants dans la chrétienté. En France, nous avons le Mont Saint-Michel. Au début du 8e siècle, Saint-Michel est apparu à Saint-Aubert, évêque d'Avranches. Et c'est cette apparition qui est à l'origine de l'abbaye du Mont Saint-Michel. Le Saint-Michel a demandé au Saint-Évêque de construire une chapelle sur le rocher qui se trouvait à l'époque dans la mer. Et l'abbaye du Mont Saint-Michel est devenue un lieu de pèlerinage important et fut le témoin de nombreux miracles. Les plus près de nous, les apparitions de Notre-Dame de Fatima ont été préparées par les apparitions de l'ange du Portugal aux trois enfants de Fatima. Et cela nous indique aussi que les anges, sont placés à la tête des pays. En dehors de la révélation, il existe aussi un argument qui peut satisfaire notre raison. L'existence des anges, dit saint Thomas, est nécessaire à la perfection de l'univers. On constate que le Créateur a établi une hiérarchie dans les êtres qu'il a tirés du néant. En bas de l'échelle, il y a le règne minéral qui jouit de l'existence mais n'a pas la vie. Ensuite, il y a le règne végétal qui, en plus de l'existence, possède la vie. Puis le règne animal, supérieur encore aux végétaux. Les individus du règne animal se déplacent pour chercher leur nourriture. Et puis, au sommet, se trouve l'homme, qui est animal aussi, mais qui possède en plus des animaux une âme spirituelle immortelle, par laquelle il vit, comprend, est libre et le rend capable de connaître, d'aimer et de servir son Créateur, ce que ne peuvent pas faire les individus des règnes inférieurs. Il y a donc une hiérarchie admirable dans le monde purement matériel. Et il est logique que la hiérarchie continue par des créatures purement spirituelles que sont les anges. Si ce n'était le cas, il manquerait un genre de créature dans l'univers créé, absolument nécessaire à sa perfection, ce qui ne peut être le cas puisque l'univers est le chef-d'œuvre de Dieu, Dieu infiniment puissant et parfait. L'existence des anges est donc indubitable. Essayons de mieux les connaître. On ne peut pas tout dire, tout un traité de la somme théologique ne demanderait beaucoup de temps. Contentons-nous de savoir quelques petites choses sur leur nature et des conséquences. Le fait qu'ils se font connaître à l'homme d'une manière sensible, sous la forme de jeunes hommes, d'une grâce et d'une beauté sans pareille, pourrait faire croire qu'ils ont des corps subtils, un petit peu comme notre Seigneur Jésus-Christ ressuscité. La doctrine de l'Église, appuyée sous les autorités des conciles, enseigne que ce sont de purs esprits. Ils sont immatériels. Ils ne tiennent donc pas de place. Un seul point de l'espace pourrait les contenir tous sans qu'ils soient à l'étroit. C'est un petit peu comme notre âme. Notre âme est dans notre corps. Elle n'a pas d'épaisseur. Elle est à la fois dans toutes les parties et dans tout l'ensemble du corps. Un passage de la vie de notre Seigneur peut essayer de nous illustrer cela. Un jour, il délivra un possédé du démon dont le nom était Légion. Cela se passait au bord du lac de Tibériade, de l'autre côté du lac. Le possédé donc parle, c'est le démon qui parle par sa bouche, et il parle au nom de tous les démons qui étaient contenus en lui. Et c'est pour ça qu'il dit « Nous sommes Légion ». Alors le démon qui parle demande à notre Seigneur la permission de pouvoir aller dans les porcs qui se trouvaient là dans un troupeau en train de paisser dans la campagne. Notre Seigneur le leur permet et voici que les démons sortent du possédé, prennent possession du troupeau et créent la panique. Le troupeau se précipite de la falaise dans la mer. Et il y avait, dit l'Écriture, 2000 porcs. Donc ces 2000 démons se trouvait dans un seul possédé. Saint Thomas tire plusieurs conséquences de l'immatérialité des anges. Ils ne peuvent se trouver en un lieu, c'est-à-dire ils ne peuvent être localisés à proprement parler. L'ange n'est présent que là où il agit, et aussi par le contact de sa puissance. Ainsi, notre ange gardien est présent à nos côtés, car il est prêt à agir dès qu'il le faut. Étant immatériel, l'ange saisit d'un seul regard ce qu'est une chose, en la regardant. S'il voit un arbre, tout de suite, il a saisi ce qu'est un arbre, il n'a pas besoin d'ouvrir une encyclopédie. S'il regarde un homme, il comprend toute la psychologie d'un homme et toute sa physiologie. Et donc, en se regardant lui-même, l'ange va pouvoir connaître Dieu mieux que nous, parce que l'ange est la créature la plus élevée de l'univers. Donc, en contemplant un effet plus élevé, il va pouvoir mieux connaître la cause de cet effet. Alors que nous ne pouvons regarder que les créatures qui nous entourent. Si on regarde une plante, une fleur, ou le soleil ou la lune, on peut en déduire, c'est Dieu qui les a créés, certaines qualités, certaines choses sur Dieu, mais c'est beaucoup moins parfait que l'ange lorsqu'il regarde ce qu'il est lui-même. Et puis on peut aussi dire que, on pourrait dire que l'homme pourrait se regarder lui-même, regarder son âme. On ne voit pas notre âme, et en plus nous sommes englués dans la matière, et la plupart des hommes ignorent même qu'ils ont une âme. Donc, ils sont très limités pour, en se connaissant eux-mêmes, eh bien, connaître la cause de ce qu'ils sont, qui est Dieu. Nous sommes créés à l'image de Dieu, mais cela ne nous dit peu de choses si on se regarde. Une conséquence aussi de l'immatérialité, c'est le nombre des anges. La Sainte Écriture parle de myriades d'anges. Myriades. Si vous ouvrez votre Larousse, c'est un nombre qu'on ne peut pas dénombrer. Le prophète Daniel envoie 1000 milliers qui le servent, qui servent Dieu et une myriade de myriades qui sont debout devant lui. Et saint Thomas donne pour raison que la perfection de l'univers requiert que les êtres plus parfaits dépassent en abondance ceux qui leur sont inférieurs. On se regarde déjà toutes les espèces de plantes, d'animaux, tous les hommes, les individus humains, eh bien, les anges dépassent beaucoup toutes ces espèces. Et pour mieux comprendre cette vérité, qu'il nous suffise de considérer que chaque homme vient au monde depuis Adam avec un ange gardien. Actuellement, il y a 8 milliards d'hommes. Donc, si on compte tous les hommes depuis Adam jusqu'à la fin du monde, cela fera beaucoup de milliards d'anges. Et on peut ajouter aussi que les anges, il y a beaucoup d'anges qui ne sont pas des anges gardiens. Tous ceux qui gouvernent les sociétés, les pays, les organisations, l'Église, les diocèses, etc. Et tous ceux qui s'occupent de la création. Parmi ces myriades d'anges, il ne s'en trouve pas deux, dit saint Thomas, qui soient de même espèce et de même qualité. Pour le comprendre, prenons une petite comparaison. On peut comparer les anges aux fleurs qui se trouveraient sur une immense prairie. Des fleurs dont chacune serait différente des autres par la forme, la couleur et le parfum. Supposons une immense prairie avec des millions de fleurs. Voilà, chaque fleur serait différente. Cela donne une petite idée de la beauté, de la splendeur du monde angélique. Et ces anges sont ordonnés, ils ne seraient pas comme les fleurs au milieu d'une prairie, ils sont ordonnés en 9 chœurs, saint Paul nous en a donné le nom dans ses épîtres, et ils constituent un ensemble admirable qui glorifie Dieu en l'aimant, en publiant ses grandeurs, en exécutant ses ordres pour gouverner l'univers. Alors, pour aborder le problème de l'activité des anges, il faut comprendre leur création et ce qui s'en est suivi. Tout au début de la création, ils furent créés en état de grâce et soumis à une épreuve de foi. L'Apocalypse de saint Jean nous relate cet épisode où le prince des anges, Lucifer, le porte-lumière, le plus beau des anges, le plus élevé, plutôt que de se soumettre à Dieu dans la foi, préféra se fier à ses propres lumières pour parvenir au bonheur. Il réussit à convaincre un tiers des anges, en leur faisant certainement valoir des raisons, en se regardant, en voyant leur perfection, et ils désobéirent ainsi à Dieu. Ils ne firent pas cet acte de foi. Le résultat ne se fit pas attendre, ils furent précipités en enfer. Et saint Michel, qui était le second du cœur des séraphins, le cœur le plus élevé des anges, se fit le champion de la défense de Dieu. Il fit valoir auprès des autres anges, eh bien, que personne n'est semblable à Dieu. Aucune créature ne peut arriver à l'approcher tant soit peu. Et cet acte de foi en la souveraineté de Dieu sur toute chose, eh bien, lui valut le bonheur de la vision béatifique. L'homme fut créé pour combler la place laissée par les anges déchus, qui cherchèrent alors, par jalousie, à empêcher les hommes de mériter cet état bienheureux qu'ils avaient définitivement perdu. Alors, réfléchissons un petit peu, les anges déchus restent des anges, avec toutes les qualités naturelles. Avec une connaissance très profonde des choses, très sûre, sans erreur pour les choses naturelles. Ils gardent leur puissance et leur force sur les choses matérielles. Ils sont capables d'être présents en un clin d'œil là où ils veulent agir. Alors on voit tout de suite que cette connaissance et cette puissance d'action sera soit un secours extraordinaire s'il est mis au service des bons anges, soit un instrument redoutable pour détourner les sociétés et les âmes des hommes s'il est utilisé par les mauvais anges. On ne peut donc pas ignorer le monde des anges ou vivre comme s'il n'existait pas, sans prendre les moyens de se protéger de l'influence des démons ou de recourir à l'intercession des bons anges. Ignorer cela, ce serait une attitude suicidaire. Rappelons-nous les nombreux exemples de la Sainte Écriture dans la vie des saints sur la puissance, sur la finesse persuasive des démons qui sont maîtres S.A.R. pour suggérer à notre volonté de se détourner de la volonté de Dieu. La tentation d'Ève au paradis terrestre, eh bien, nous illustre bien la finesse psychologique du démon et il a réussi à tromper Ève. Quant à la puissance du démon, on en a beaucoup d'exemples, il utilise souvent les hommes pour persécuter ceux qui sont fidèles à Dieu. On en a un exemple dans l'Ancien Testament, au temps du roi Ézéchias et du prophète Isaïe, vers l'an 700 avant Jésus-Christ. Jérusalem était assiégée par un peuple païen, les Assyriens, par plusieurs centaines de milliers de soldats. Le peuple était dans le désespoir, il n'y avait absolument aucune chance de survie. Le roi s'adresse au prophète Isaïe, que faire ? Le prophète, il est prophète, donc il dit au roi, eh bien, il faut faire prier le peuple et faire pénitence. Le bon Dieu nous exaucera. Donc le roi ordonne de prier, de faire pénitence, et la nuit même, Dieu envoie un ange, un seul ange, et cet ange extermina 185 000 hommes dans la nuit. Le général de l'armée, Sennachérib, épouvanté, s'enfuit avec les survivants. Donc Jérusalem fut sauvée. Au temps des apôtres, nous avons des exemples plus simples, mais qui montrent la puissance aussi des anges sur la matière. Saint Pierre a été arrêté par le roi Hérode et mis en prison. L'Église naissante prie tous les jours pour lui, pour sa délivrance, tout du moins pour qu'il ne soit pas mis à mort. Et l'ange gardien va délivrer Saint Pierre. Il est pourtant sous bonne garde, il a des fers aux pieds et aux mains, il a des gardiens dans une prison avec double grille, et l'ange enlève tout cela, ouvre les grilles sans faire de bruit, sans se faire voir, et Saint-Pierre est délivré. Nous devons donc être reconnaissants envers ces compagnons de notre vie auxquels Dieu a demandé de nous garder dans toutes nos voies, et qui s'acquittent de cette tâche avec un amour et une fidélité sans faille. Ils ne dorment jamais. Ils sont toujours sur la brèche, prêts à intervenir. Nous avons donc envers eux, dit saint Bernard, un devoir de respect, puisqu'ils sont toujours à nos côtés. Ils voient la face de Dieu. Devoir d'affection, de confiance. Devoir de respect, étant à nos côtés, il y a beaucoup de choses, si on pensait simplement à cela, que nous éviterions de faire. Des conduites inconvenantes, des situations de péché. Devoir d'affection pour leur bienveillance, pour les faveurs dont non sans nombre que nous recevons de leur charité. Nous avons certainement des faits dans notre vie pour illustrer cela, ou on en a entendu autour de nous, telle personne qui, en conduisant, aurait dû avoir un accident, aurait dû être morte, par exemple, et elle ne peut pas s'expliquer ça, c'est pas possible, elle était sauvée. Bon, il y a certainement l'intervention d'un ange. Une attitude de confiance pour la grandeur de leurs soins, jointe à leur force et à l'étendue de leur pouvoir. Et saint Bernard y ajoute un quatrième devoir, la docilité à obéir à ses conseils, ses inspirations et ses remontrances. Concrètement, eh bien, nous devons prier notre ange gardien tous les jours. Consultons-le dans nos entreprises. Envoyons-le vers les personnes que nous devons rencontrer. Recourons à lui dans nos déplacements. À la Sainte Messe, les anges sont là, présents au sacrifice de la messe. Eh bien, unissons notre voix à la leur. spécialement lorsqu'on va chanter avec le prêtre, qu'on va s'unir au prêtre pour la préface, et on va unir nos voix aux anges. Et puis à la consécration, le prêtre, dans une prière après la consécration, demande à ce que le sacrifice qui est offert sur l'autel soit porté par l'ange sur l'autel sublime de Dieu. Eh bien, cet ange, c'est Saint-Michel, nous disent tous les pères de l'Église. Eh bien, unissons-nous à Saint-Michel, unissons, offrons notre sacrifice et mettons-le entre les mains de Saint-Michel à la messe pour qu'il l'unisse au sacrifice de l'autel. Demandons enfin à Dieu, par l'intercession de la Reine des Anges, de nous accorder l'appui de leur protection et la joie de vivre un jour parmi eux dans l'éternité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Amen.